Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, fut ministre, concepteur de parc à thème, écrivain également.
Bienvenue ce matin sur Europe 1 et bonjour Philippe Devilliers.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Effectivement, vous revenez en librairie avec un genre que l'on vous connaît bien, le roman historique écrit à la première personne, La valse de l'adieu chez Plon, et un style que l'on vous connaît aussi exalté, épique, chevaleresque. Est-ce que vous trouvez, Philippe Devilliers, qu'on manque d'épopée et d'exaltation en ce moment?
Oui, et c'est très grave parce qu'en réalité, si on ne donne pas à des jeunes Français de papier qui voudraient devenir des Français de désir, accès à nos héros, à nos saints, à nos légendes, à nos bravoures, à nos vies sacrificielles, à tout ce qui fait la grandeur, l'élégance et le poème français, eh bien, ils se tournent déjà vers d'autres saints, vers d'autres héros, vers d'autres légendes, vers d'autres bravoures, vers d'autres gloires et vers d'autres vies sacrificielles. Et c'est un drame. Nous vivons un mémoricide et un génocide en même temps. Un génocide parce qu'il y a un changement de population. C'est
un
clair.
Génocide, Philippe Devilliers.
Un génocide du peuple français, oui.
Un génocide,
oui,
vous employez...
J'appelle, ça, j'appelle génocide un basculement démographique qui fait que dans 30 ans, le problème est réglé. Il suffit d'aller dans la rue pour le voir. Et un mémoricide, c'est-à-dire une désaffiliation, c'est-à-dire qu'on n'offre plus aux jeunes Français ce qu'était le roman national, c'est-à-dire un roman d'amour.
Quand vous dites génocide, c'est-à-dire qu'il y a une volonté consciente, et là, c'est plus que de remplacer un peuple. Si on prend l'expression, c'est d'en finir avec un peuple. Vous
oui.
assumez cela?
Ce sont des générations qui, depuis 40 ans, depuis le regroupement familial, en fait depuis Giscard, se sont succédées. Avec l'idée qu'on pouvait faire une expérience à partir d'un espace qui s'appelle l'Hexagone, et cette expérience consiste à faire venir des générations et des générations d'émigrés qui, avec la meilleure volonté du monde, et d'ailleurs coupés de leurs racines, cherchent à recréer chez nous un petit peu de ce qui est au cœur de leurs patries intimes. Et c'est un véritable drame. Et quand on entend Emmanuel Macron qui dit... il faut repeupler les campagnes.
Répartir les migrants les campagnes et les petites villes aussi.
Les répartir,
comment vous réagissez?
Je réagis en disant, il fait le grand emplacement, voilà. Il fait le grand emplacement, c'est-à-dire que petit à petit, après avoir installé tous les quartiers qui ont déséquilibré les villes, on va installer des quartiers dans les campagnes et... on va installer une véritable colonisation. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des gens de l'extérieur qui vont arriver dans les campagnes avec leurs mœurs. Et ce ne sont pas les campagnes qui vont s'adapter, qui vont imposer leurs mœurs, ces nouvelles colonies qui vont imposer leurs mœurs à nos campagnes. Et donc, en fait, ça en sera fini de la France.
Vous commencez fort, Philippe Devilliers. Ça fait 2 minutes qu'on a démarré cet entretien. En 2 minutes, on a eu droit à génocide, grand remplacement, la fin du peuple français.
Oui. Oui, moi je suis très inquiet pour la France. Vous savez, qu'est-ce qu'une nation? Une nation, c'est des souvenirs communs. Que reste-t-il de nos souvenirs communs? Est-ce qu'on les cultive? Est-ce que vous parliez d'exaltation tout à l'heure? Est-ce qu'on exalte notre patrimoine? Ensuite, c'est un art de vivre. Quand on voit que la Commission de Bruxelles nous impose une petite fillette voilée, où est notre art de vivre à l'européenne
c'est
et à la française? Et enfin, troisièmement, c'est une langue. Quand on voit l'écriture inclusive qui petit à petit s'impose comme une tache d'huile, quand on voit le wokisme, on a de quoi être inquiet.
Mais
donc
Philippe
je suis
Devilliers,
inquiet
attendez.
Parce que la France, c'est une marqueterie fragile.
Est-ce que la recherche du frisson de l'âme, est-ce que la recherche de l'émotion que vous exaltez vous autorise à tordre parfois l'histoire pour la façonner à votre manière, comme vous le reprochent vos détracteurs, notamment d'ailleurs au Puy du Fou?
Alors en fait, les gens qui disent ça d'ailleurs auront bientôt la possibilité de se réunir sous un abri à trottinette tellement ils sont peu nombreux. Les gens qui viennent au Puy du Fou, parce que vous y faites allusion, sont de plus en plus nombreux. C'est la France populaire, la France en manque, la France qui nous dit rendez-nous nos racines. Mais je vais vous répondre de manière plus en prenant plus de hauteur. En 1870, les historiens républicains, autour de celui qu'on appelait l'instituteur national, Ernest Lavisse, on fait un constat. Il n'y a plus de fédérateurs depuis que Saint-Crème a disparu. Il faut qu'on trouve un fédérateur de substitution. Un fédérateur pour fédérer les Français autour de notre mémoire vivante.
D'ailleurs, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs croyances,
Oui, absolument. Il y a un historien communiste, d'ailleurs, qui s'appelait Lefebvre, qui disait « Celui qui parle mal de Jeanne d'Arc est un salaud ». Donc, tout le monde était d'accord sur l'idée qu'il fallait chercher la petite bergère qui avait touché au Saint-Crème, Clovis qui avait touché au Saint-Crème, etc. Ce fut le roman national. Et en fait, le roman national a préparé l'Union sacrée. Et en mai 68, le roman national a pris un cocktail Molotov. Et l'histoire a été livrée, en quelque sorte, aux sciences sociales jargonnantes, mortifères. Et on a tué l'épopée.
Vous voulez dire que le récit national a reçu un cocktail Molotov depuis la Sorbonne. Mais aujourd'hui, oui. Philippe de Villiers...
Alors, attendez, mais aujourd'hui, allez-y. Justement, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le roman national est mort et il n'a jamais été remplacé. Et ce que moi je dis, c'est qu'il faut... Pour faire une nation, il faut un lien amoureux.
Oui.
Il faut refaire un
le
peuple
lien amoureux. Mais quelle légitimité, certains peuvent vous poser la question, je vous la pose ce matin, avez-vous pour refaire ce récit national? Parce que quand on voit ce que vous écrivez, quand on lit surtout ce que vous écrivez depuis des années, Philippe de Villiers, du roman de Saint-Louis au mystère Clovis, en passant par le roman de Jeanne d'Arc jusqu'à ce dernier ouvrage, La valse de l'adieu, est-ce que vous vous êtes fixé comme mission de reconstruire, de réécrire une version, un récit national de l'histoire face à ceux qui veulent la déboulonner, cette même histoire?
Oui, exactement. Moi, je...
D'où vous vient cette mission, cette onction?
Non, j'ai pas de mission, j'ai simplement, je ressens douloureusement quand je vois des jeunes assoiffés, des âmes en manque, à plantes palpitantes, qui disent « On voudrait savoir d'où on vient, on voudrait savoir ce que c'est que les mousquetaires, on voudrait savoir ce que c'est que la colombe du baptistère, on voudrait savoir d'où vient la France, ce qu'est la France pour pouvoir l'aimer. » Eh bien, je me dis, il faut que quelqu'un fasse ça.
Donc on ne donne pas à aimer la France?
Non, parce que aujourd'hui, les historiens, pour beaucoup d'entre eux, sont devenus des médecins légistes. On ne fait même plus de chronologie, on fait de la statistique. Et donc, cette histoire froide, spectrale, qui est proposée à nos jeunes, ne peut pas les enthousiasmer. Et j'ai pas répondu tout à l'heure à une petite incise. Moi, ça me dérange. Le récit national, c'est pas le roman national. Le roman national, c'est le récit légendé. C'est-à-dire que Churchill avait dit, je crois que c'est lui, ou peut-être Saint-Aignan, si vous trouvez que la légende est plus belle que l'histoire, alors imprimez la légende.
Et
d'ailleurs, c'est ce que fait Victor Hugo.
Oui,
et Cocteau disait,
oui.
L'histoire, c'est du faux. C'est du vrai qui s'incarne, pardon. Et la légende, c'est du vrai qui se déforme.
Oui, mais jusqu'où faut-il aller dans la façon de travestir cela? Parce qu'il y a beaucoup de gloire, de glorification dans ce livre et dans vos romans historiques en général, Philippe de Villiers. Est-ce que vous ne reconnaissez pas aussi, derrière les grands personnages, qu'il peut y avoir des pages sombres, des fautes lourdes, un besoin de repentance, comme le soutient d'ailleurs Emmanuel Macron?
Alors en fait, quand on est français, la France, c'est une... Qu'est-ce que c'est qu'une nation? C'est une famille de familles. Bernanos disait, une nation, c'est comme une famille, c'est un drame moral. Et on ne choisit pas la couleur des souvenirs qu'on embrasse. Quand on est français, on accepte tout. On accepte tout, y compris les fautes, parce que c'est la grande famille.
Mais on est lucide sur les fautes, l'êtes-vous?
Comment?
On est lucide sur les fautes aussi, l'êtes-vous?
Mais, bien sûr, dans mon livre... La valse de l'adieu, j'évoque Napoléon. Et je l'évoque longuement puisque le personnage que je suis et qui a réellement existé, qui s'appelle Jean O'Gonil, a suivi l'empereur, notamment au moment de la campagne de Russie. Et après avoir été bonapartiste dans un premier temps, il a entendu des caporaux qui disait dans la neige, au moment du retour, avant la Bérézina, on aurait dû passer 14 jours, 15 jours à Moscou, mais pas plus. Là, 34 jours, on est revenu et on n'a pas de chevaux ferrés, on n'a pas de traîneaux glissants, on n'est pas équipé. Comment un conscrit peut-il faire une erreur pareille? Et donc, en fait, le Napoléon d'Austerlitz est devenu, dans le cœur de ces grognards, un conscrit pubère et qui fait des erreurs de conscrit
pubère.
Donc,
vous racontez la lumière et les ombres aussi liées à ce grand personnage. La lumière, ce sont aussi des coups d'éclat, de l'excès parfois. Éric Zemmour, justement, venons-en aussi à la politique. Philippe de Villiers est adepte de la stratégie des coups d'éclat permanents. À ce sujet et au sujet de son rêve politique brisé à la présidentielle et peut-être aussi un peu beaucoup le vôtre, que reste-t-il du zemmourisme aujourd'hui?
Éric Zemmour laisse derrière lui quelque chose qui ne s'effacera pas et qui fait qu'il entre dans l'histoire et non pas dans les urnes. L'histoire, c'est beaucoup plus important que les urnes. C'est le concept du grand remplacement. Remplacement d'un peuple, remplacement d'une civilisation. Et donc, qu'est-ce qu'on voit depuis la présidentielle? On voit, à travers l'exemple que je donnais tout à l'heure, mais bien d'autres exemples, qu'il avait raison. Avant tout le monde, un exemple qui me révolte et qui indigne beaucoup de Français, c'est le décalage entre ce qui se passe dans nos écoles et sur les réseaux sociaux sur la question du voile, avec une véritable propagande effrontée, une provocation systématique, c'est-à-dire qui invite les jeunes filles, les jeunes gens à porter le camis,
la baïa et d'autres.
La baïa, etc. Et le décalage avec l'Iran. C'est-à-dire qu'en Iran, le voile est un instrument de soumission des femmes, avec utilisation de leur corps à des fins théologiques. Et en France, c'est un instrument de liberté, selon les néo-féministes. Et donc ça, c'est quelque chose qui ne va pas, c'est quelque chose qui est en train de nous détruire.
Mais alors, pourquoi dans les urnes ça n'a pas marché? C'est la question, Philippe de Villiers, puisque vous semblez dire qu'Éric Zemmour a tout vu avant tout le monde, en tous les cas avant beaucoup de monde. Pourquoi ça n'a pas matché
où c'est le plus important, dans les urnes? Le 24 février 2022... Vous vous en souvenez sans doute.
Évidemment.
Il y a eu l'invasion de l'Ukraine.
Et
donc, il n'était plus sur son sujet.
Il n'a pas vu venir cela. Comment la guerre d'Ukraine, justement la question des réfugiés ukrainiens, va casser cette campagne?
Non, alors c'est pas la question des réfugiés, c'est beaucoup plus grave et beaucoup plus large que ça. Ça ne le concerne pas. Ça concerne le pays tout entier et la campagne tout entière, puisque c'est grâce à ça qu'Emmanuel Macron a été élu. C'est qu'à partir du moment où il y a eu la question de l'Ukraine, l'invasion de l'Ukraine, eh bien, les préoccupations des Français n'étaient plus les mêmes. Les préoccupations des Français, c'était plus le grand remplacement, c'était le grand manquement. C'est-à-dire le manquement de sucre, manquement d'essence. Et la campagne se déplaçait à la pompe à essence et au supermarché.
Mais reconnaissez que la question des réfugiés a été quand même un point de basculement et un marqueur dans cette campagne d'Éric Zemmour. D'ailleurs, on peut s'étonner qu'en politique avertie vous-même, Philippe de Villiers, vous ne l'ayez pas conseillé. Mais peut-être ne vous écoute-t-il pas?
Non, mais j'ai rien à dire là-dessus.
Vous étiez quand même dans la campagne. Vous souffliez à l'oreille d'Éric Zemmour.
Moi, j'étais un conseiller d'Éric Zemmour discret. D'ailleurs, je ne me suis jamais exprimé.
Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi ce silence durant toute la campagne?
C'est que quand on est le conseiller d'un candidat, on ne cherche pas à le remplacer.
Certains l'ont fait? On cherchait
non,
à le faire?
Pas du tout, mais ça se fait souvent dans les partis politiques. Nous, ce n'était pas le cas, et moi, ce n'était pas mon cas. Voilà.
Est-ce qu'au fond, vous étiez à votre place, Philippe de Villiers? Est-ce qu'il n'y a pas de la déception et de l'amertume aujourd'hui? Parce que vous, vous préférez, on le sait, on le lit d'ailleurs, on le connaît à travers toutes vos prises de position, la métapolitique à la politique.
Non, je vais vous dire... la politique dépend de la métapolitique. La métapolitique, ce sont les valeurs fondatrices. Et donc, si la France ne se ressaisit pas, ne retrouve pas le régalien, l'État, la souveraineté et l'identité, notre pays va mourir. Vous voyez, là, ce que je reproche à Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est qu'en fait, il fait trois choses. Il y a trois blessures. Une blessure dont on a parlé sur l'immigration, donc son geste sur l'immigration dans les campagnes, ça veut dire, allez, on va continuer, on ouvre les vannes. Oui. Deuxièmement, quand il supprime le corps préfectoral et le corps diplomatique, c'est ce qui tient la souveraineté interne et la souveraineté externe. Et enfin, quand il prépare l'euthanasie, il abolit ce que le grand rabbin M. Corsia appelle, enfin, il parle d'une rupture anthropologique majeure. Il abolit
si
le
«
tu ne tueras pas » du décalogue.
Philippe Devilliers, tout est noir, initié par Emmanuel Macron. Mais alors pourquoi, je pose de nouveau ma question, cela n'a pas accroché avec Éric Zemmour dans les urnes. Que reste-t-il aujourd'hui des zémorismes? Vous étiez quand même au cœur de cette campagne.
Alors, moi, je ne suis pas du tout là. Je suis venu à votre antenne pour parler de mon livre. Et je suis pas du tout venu pour refaire un carnet de campagne et regarder derrière moi dans le rétroviseur. Donc la campagne elle est terminée ce dont je vous parle c'est de la France de demain.
Attendez, elle est terminée, c'est-à-dire qu'il y a une page qui s'est tournée même avec Éric Zemmour pour
mais
vous.
La campagne, non, mais la campagne elle est finie, donc elle est derrière nous maintenant. On a au pouvoir, on a une assemblée que vous connaissez, vous voyez ce qui se passe. Bon, voilà, et vous voyez tous les jours les décisions qui sont prises. Donc, par exemple, on explique aux Français qu'on va rentrer chez eux pour leur couper le chauffage, etc. Ben, c'est quand même une situation. On est dans une situation très grave quand on voit le néo-féminisme, quand on voit le wokisme.
Mais attendez, la sobriété.
Vous ne parlez pas du wokisme. Le wokisme, alors, c'est très grave. Il y a un livre qui vient de sortir de Jean-François Bronstein qui s'appelle La religion woke. La religion woke, ça consiste à dire que l'ennemi, c'est l'homme blanc, occidental, hétérosexuel, forcément sexiste et raciste.
Philippe Devilliers, dénoncer...
Est-ce qu'on peut faire une nation
avec
ça ?
Dénoncer la radicalité, les excès de cela, oui, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi, j'en reviens au coup d'éclat, pour faire avancer certaines causes, notamment la cause des femmes, de la lutte contre les violences faites aux femmes ? Non ? Est-ce qu'il ne faut pas un peu bousculer les choses aussi ?
Alors, la cause des femmes, quand on soutient la cause des femmes en termes de libération, c'est une bonne chose. Quand on la soutient en termes d'inquisition, ça devient une mauvaise chose.
Je rappelle le titre de votre livre, Philippe Devilliers, La valse de l'adieu. Il n'y a pas d'adieu pour la politique, pour vous ?
C'est quand on aime la France, il n'y a jamais d'adieu. La politique, c'est, comme disait Saint-Augustin, c'est la plus haute forme de la charité.
La valse de l'adieu chez Plomb. Merci Philippe Devilliers d'avoir été notre invité ce matin.